conduite antisportive à l'antenne de Chiz 94.3 en cette journée spéciale d'éclipse solaire. Je suis Charles Leblanc en compagnie de mes fidèles acolytes Emery Riendo et Victor Marchand. Comment ça va les gars?
Ça va très bien.
Ça va très bien, toi, Charles?
Ça va super bien. Écoute, Emery, comme à l'habitude, je te laisse présenter notre invité de la semaine.
Oui, alors merci, Charles. Alors aujourd'hui, nous recevons en studio Jean-Simon Desgagnés, qui est un étudiant en médecine, mais il est aussi athlète pour le Rouge et Or en cross-country et en athlétisme. Et présentement, il est en lice pour se classer pour les Jeux olympiques de Paris qui auront lieu cet été. Alors bonjour, Jean-Simon, comment ça va?
Salut les gars, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Ça va super bien.
Alors rapidement, le site des auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te décrire rapidement?
En fait, je suis un athlète en athlétisme au 3000 mètres steeplechase. J'évolue avec l'équipe canadienne maintenant depuis 3 ans. J'étudie en médecine à l'Université Laval depuis 2017. Puis j'essaye de courir le plus vite possible à chaque jour.
Excellent. Alors, c'est ça, on l'a dit, tu es en lice justement, pour te classer pour les Jeux olympiques qui auront lieu à Paris cet été, au mois de juillet. Alors, l'été dernier, tu as connu toute une performance lors des championnats mondiaux d'athlétisme en faisant le 3000 mètres steeplechase qui était à Budapest. Tu as fait un temps de 8 minutes 15 secondes 58e millième. Et puis, pour avoir le standard olympique, c'était 8 minutes 15 secondes flat. Alors, tu étais très, très près de l'atteindre. Maintenant, ce statut, c'est qu'est-ce que ça prend pour que tu puisses participer aux Jeux olympiques qui te classent officiellement?
Mm-hmm. En fait, la sélection pour les Olympiques, il faut répondre à deux critères. Le premier, on pourrait dire que c'est un critère de la Fédération internationale d'athlétisme. Fait que c'est soit faire le standard qui est de 8 minutes 15 comme tu l'as dit, ou d'être dans le top 36 au monde. Donc, malheureusement, l'année passée, j'ai passé tout près là, de faire le standard de sélection automatique, mais tout de même, grâce à cette course-là, là, je suis classé entre là, 14 et 15e là, au classement mondial en fonction de est-ce qu'il y a du mouvement à chaque semaine. Donc, ce critère-là, malgré que j'avais pas fait le standard, est pas mal réglé. Puis, le deuxième critère, c'est un critère qui est plus par rapport à l'équipe canadienne. Donc, chaque fédération nationale peut mettre son critère. Puis au Canada, c'est d'être parmi le top 3 canadien. Ça va se jouer au championnat canadien qui a lieu à Montréal le 27 juin. Donc, soit le top 36 au monde qui est pas mal réglé et top 3 au Canada qui s'en vient là, à la fin du mois de juin.
Puis si jamais la qualification se confirme, est-ce que tu as en tête des objectifs rendus à Paris? Est-ce qu'il y a de quoi que tu voudrais vraiment atteindre dès 2024?
Bien, c'est sûr que l'année passée, d'être en finale au championnat du monde, de faire un top 10, c'était exceptionnel. Souvent, c'est les mêmes athlètes qui sont là au championnat du monde et aux Olympiques, mais qu'on pourrait dire qui donne les bouchées doubles à cause que c'est l'année olympique. Fait que si je suis capable de me présenter là en meilleure forme que l'année passée, de faire une finale puis de viser un top 10, ce serait déjà vraiment exceptionnel.
Ouais, OK. Puis est-ce que, tu sais, là, on parle de steeplechase, puis c'est pas une discipline qui est très connue, je dirais, dans le monde d'athlétisme. Est-ce que, comment t'as fait pour te rendre là? Je me rappelle, je t'avais vu au secondaire, tu courais justement, tu faisais du 3000, du 1500. T'étais un peu plus vieux que moi, j'en faisais un peu, j'étais un peu plus jeune, mais tu sais, comment t'as fait pour à un moment donné te retrouver à changer un peu de voix? Est-ce qu'il y a de quoi qui. Y a-tu un déclic à quelque part ou y a-tu quelqu'un qui t'en a parlé, qui t'a donné cette piqûre-là?
Ouais, ben je pense que d'emblée, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme, j'ai rapidement fait du steeple. Dans les compétitions scolaires, il n'y en a pas là, de steeplechase, mais sur les circuits civils, là, déjà, je faisais du 2000 steeple là, quand j'étais plus jeune, secondaire, cégep. Puis, tu sais, je pense que j'ai décidé de faire cette épreuve-là parce que dès que j'y ai touché, je suis un peu tombé en amour avec ça. Le fait qu'il y ait des haies, je trouve que ça brise un peu le côté monotone de la course, que c'est juste mettre un pied devant l'autre, mais ça rajoute un côté un peu funky. Faut que tu franchisses les obstacles. Puis en plus, t'as la rivière d'eau que c'est rendu quasiment un aspect plus technique. Ouais. C'est rendu vraiment autre que juste courir. Fait que je pense que ça me rejoint puis ça me représente vraiment. Puis aussi, j'ai eu une certaine aisance là, dès que j'ai fait cette discipline-là. J'étais capable de super bien franchir les haies, bien aller. Fait que c'était comme une combinaison parfaite pour moi, puis j'ai jamais vraiment décroché de ça.
Puis est-ce que y a une préparation particulière, parce que tu sais, clairement, tu te prépares pour de la course à pied, mais est-ce que t'as-tu une préparation différente à faire pour les haies, pour ce genre de trucs-là? Je sais qu'il y a des entraînements qui se font pour des coureurs de haies, mais est-ce que toi, t'as de quoi de différent que tu fais quand tu t'entraînes?
Ouais, en fait, ben contrairement peut-être à un coureur de courte distance sur les haies, fait que surtout du 110 ouais. mètres haies ou du 400 mètres haies, eux, leur entraînement par rapport au haies va être beaucoup plus important que le mien. Moi, mon entraînement reste de l'entraînement en course d'endurance, donc en demi-fond. qui ressemble à n'importe quel autre coureur qui ferait du 1500 ou du 3000 mètres ou du 5 km comme on connaît bien. Puis à peu près, je dirais, là, du mois de avril, pendant toute la saison estivale, ben j'intègre des haies dans mon entraînement. Fait au même titre qu'un coureur de longue distance pourrait faire un entraînement de, par exemple, 3 fois 1000 mètres, ben moi, je vais faire 3 fois 1000 mètres, mais avec des haies. Fait que c'est un peu la variante de la chose, que plutôt que quelqu'un qui ferait des sprints avec des haies, s'étire beaucoup, fait beaucoup d'éducatif de haies, a tout l'aspect un peu de coordination musculaire de faire les haies. Moi, ça va être vraiment d'intégrer ça dans mes intervalles plus longs, puis de rajouter peut-être quelques pratiques de haies, je dirais, qui représentent peut-être 5 à 10% d'un entraînement dans la semaine, mais c'est pas aussi majeur que, par exemple, quelqu'un qui fait vraiment le sprint avec les haies.
Okay. Mm-hmm. On a parlé aussi avant d'entrer en onde, tu pars en Arizona demain. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas que tu pourrais pas nécessairement avoir ici au Québec?
Ouais, ben les camps d'entraînement en Arizona, c'est d'emblée pour aller en altitude, donc on s'en va plus précisément à Flagstaff, qui est tout près de Sedona, entre Phoenix puis le Grand Canyon, là, pour vous situer un petit peu. Flagstaff, c'est vraiment, on pourrait dire, la mecque de la course à pied au mois d'avril. Là, il y a des coureurs d'Europe, des coureurs des États-Unis, tout le monde se ramasse là. C'est fou, tu sais, tu croises quasiment une médaille olympique à chaque jog là, quand t'es là-bas. C'est assez exceptionnel. Puis l'idée d'aller là, c'est surtout les bienfaits de l'altitude. Donc Flagstaff, c'est autour de 2000-2200 mètres. C'est la hauteur qui est comme optimale pour les bienfaits au niveau des globules rouges. Fait comme le niveau d'oxygène à Flagstaff, ben en altitude, est moindre qu'au niveau de la mer, ben le corps s'adapte. Donc, le corps va comme produire les hormones nécessaires pour produire plus de globules rouges, puis ça augmente un peu notre quantité de globules rouges, puis c'est vraiment avantageux parce que plus de globules rouges, plus d'oxygène aux muscles, plus d'oxygène au cœur, donc on peut courir plus vite. Fait que ça, c'est la première aspect d'aller à Flagstaff. Puis aussi, il y a le deuxième aspect, ben c'est quand on part d'un camp d'entraînement, on s'isole, tu sais, en termes de performance puis de focus sur la course à pied. Fait qu'il y a pas de, il y aura pas de barbecue le vendredi soir avec une bière avec les chums. Il y aura pas de sortie, tu sais. C'est vraiment le focus est sur la course à pied pendant un mois. Oui, on va se permettre de faire quelques sorties là-bas, d'aller au resto, mais il y a vraiment un genre d'aura on est là pour performer puis pour devenir des machines, là, pendant ce mois-là.
Ça élimine les distractions d'emblée, là. Puis tu disais, c'est une des destinations optimales. Est-ce que c'est encore plus optimal que, par exemple, aller s'entraîner au Kenya, ou est-ce que c'est 4000 mètres d'altitude? C'est quoi la différence en étant 2000?
Ouais, ben c'est ça. Les études, ce qu'ils prouvent, c'est que le mieux, c'est le protocole Live High, Train Low. Fait que la majorité de notre temps est passé en haute altitude, fait que à 2000 ou 2200 mètres. Puis les entraînements en haute intensité vont être faits à basse altitude. Donc, on descend souvent à Sedona ou à Cottonwood, qui est à peu près à 900 mètres d'altitude. Okay. Fait que ça permet de... Quand t'es en haut, quand t'es en train de récupérer tes gros entraînements, t'as les bienfaits de l'altitude. Puis, quand tu descends, ben, t'as plus les effets néfastes de pas avoir d'oxygène quand tu t'entraînes. Parce que si on s'entraînait trop haut, on serait pas capable d'aller assez vite, pas capable d'avoir les gains de l'entraînement, parce qu'on serait vraiment pas bon à cause qu'il y a pas assez d'oxygène. La différence entre aller à des endroits plus hauts, c'est le corps serait pas capable de surcompenser. Fait que l'optimal, c'est fait autour de 2400, 2500 mètres, mais monter au-dessus de ça, ça devient un trop gros stress pour le corps. Puis au lieu d'un peu toujours flirter avec la ligne de j'ai pas d'oxygène, je compense, puis là, ça serait toujours, ton corps est toujours en déficit, puis on serait jamais capable de compenser. Donc, on essaie d'aller jamais vraiment plus haut que 2400 mètres.
Okay. Moi, je faisais un peu de vélo quand j'étais il y a quelques années, mm-hmm. puis les athlètes professionnels faisaient un peu la même chose, mais vu que c'est un peu plus européen, le monde allait en Andorre, ou tu sais, habitait à Andorre, fait qu'au final, c'était comme ça qu'ils faisaient pour s'entraîner. Puis il y avait plein de camps en altitude qui étaient faits durant justement cette période-là un peu morte, là, qui est un peu plus tôt que la course à pied. Mais c'est super intéressant de voir justement à quel point, tu sais, c'est des secondes pour toi, là, dans le sens que la seconde que tu peux gagner à chaque fois que tu vas en camp comme ça, tu vas la prendre. Dans le top 10, tu vas peut-être jouer avec ça. Là.
Vraiment, puis on sait aussi que d'une année à l'autre, on s'adapte de mieux en mieux. Ouais. Je pense que la première fois que je suis allé en camp en altitude, c'était en 2017 ou 2016, puis j'avais vu des bénéfices. L'année d'après, encore plus des bénéfices. Puis on dirait que maintenant, j'arrive là, puis je suis pratiquement déjà adapté. Ouais. Fait que d'avoir un peu cette expérience, puis la mémoire corporelle de tout ça, ou appelons-le comme on veut, ça fait que j'arrive là, puis je le sais que je vais avoir un peu cette gear-là magique là, qui m'attend. Là.
Tu restes combien combien de temps en Arizona?
Je reste pendant 5 semaines. Le minimum pour avoir les bienfaits de l'altitude, c'est 21 jours. C'est vraiment un minimum, là. Mais tu sais, les gains après ça sont pas comme exponentiels. Fait que tu sais, de rester 6 semaines au lieu de 3 semaines, ça va faire une différence majeure. Mais on essaie toujours de faire au moins un bon mois. Puis on cible en fonction des compétitions qui s'en viennent après. Là.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Les Olympiques, c'est quand même bientôt, là. Tu sais, cet été, ça ressemble à quoi après, là? Une fois revenu à Québec, ton entraînement et tes compétitions?
Ouais, ben là, après le camp d'entraînement en Arizona, je vais ouvrir ma saison au steeplechase. Donc, je vais faire mon premier 3000 mètres, soit en Californie ou au Maroc, en fonction des gens qui s'inscrivent là, aux différentes compétitions, en fonction de l'entraînement, comment que ça va. Après ça, je vais revenir au Québec là, pour un bon bloc d'entraînement avant les championnats canadiens, peut-être inclure un ou deux 1500 mètres là-dedans. Puis finalement, championnat canadien là, qui va être à la fin du mois de juin. Après ça, je vais retourner en Europe là, pour compétitionner sûrement à la Diamond League de Paris. Puis après ça, ça va être le camp préparatoire olympique avec l'équipe canadienne à Barcelone, puis finalement les Olympiques là, début du mois d'août.
Okay. Je me demandais aussi, tu as eu une 8e position là, au championnat du monde à Budapest, mais indépendamment des résultats, tu as voyagé beaucoup. Y a-t-il une destination ou des destinations que tu as préférées, que tu as vu à cause de ton sport?
Ouais, ben, tu sais, ça me fait rapidement penser que voyager pour le sport puis voyager pour le plaisir, c'est vraiment deux mondes.
Mais tu sais, ça peut être les infrastructures ou tu sais, une place que t'as aimé aller. Là,
exact, c'est ça. Puis tu sais, souvent le monde, il me pose la question. Puis tu sais, il y a des places que j'aimerais retourner parce que, du crime, quand je suis allé pour le sport, j'ai pas pu visiter autant que je voudrais, mais. Je pense que Budapest, autant pour la ville, l'expérience que j'ai eue en tant qu'athlète, puis les résultats, c'était vraiment exceptionnel. Tu sais, c'est un genre de communion de culture entre l'Occident, l'Orient. Tu sais, t'as l'influence turque, mais aussi l'influence de l'Europe, plus que comme nous on connaît. On mange de n'importe quoi. Tu sais, autant de la nourriture asiatique que de la nourriture plus orientale. Les mets sont épicés. Je trouve que c'est un mix de culture là, qui est vraiment incroyable, puis une architecture aussi qui est super intéressante, la ville, la façon que c'est fait, puis les gens pour l'athlétisme étaient vraiment fans là, compétitionner dans un stade de 35 000 personnes qui hurlent quand tu compétitionnes, c'est magique, puis les gens comprennent le sport, fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Ben souvent c'est comme ça dans toute l'Europe, mais en Hongrie c'était surtout ça, c'est qu'autant regarder un lancer du marteau qu'une course de 400 mètres qu'un 3000 mètres, les gens ont des temps de référence, sages, c'est quoi qui se passe. Fait que c'est ça, je pense que c'est un endroit qui va toujours rester dans ma tête. Mais là, Paris cet été, peut-être va compétitionner avec ça. Hein?
On te le souhaite en tout cas. Mais tu sais, justement, tu l'as dit, c'est difficile de pouvoir autant profiter quand tu fais un voyage de sport. Mais est-ce que tu te le permets quand même, par exemple, de rester quelques jours ou quelques semaines de plus à une destination après une compétition pour pouvoir en profiter puis visiter des lieux touristiques, par exemple?
Je dirais que souvent, quand je pars en compétition, j'essaye de faire une genre de journée ou du moins quelques heures de touriste, t'sais, d'aller voir les attractions majeures, mais c'est sûr que le gros focus et la raison de voyage, c'est d'être optimal pour la course. Fait que tu sais, je vais pas non plus faire ça au détriment d'être fatigué, au détriment d'avoir marché 25 km dans une journée parce que tu fais le tour de la ville. Mais ceci dit, souvent à la course, ben c'est facile de voir beaucoup de la ville sans nécessairement trop brûler d'efforts. Fait que je me rappelle quand j'étais allé à Bruxelles il y a quelques années, ben j'avais pu courir la ville en courant, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun d'un peu découvrir tout ça. Ben sans rentrer dans toutes les installations, tu vois certaines architectures, tu vois des belles choses, t'arrêtes dans un petit café puis tu profites un peu de la ville là, sans vraiment non plus te brûler. Fait que tu sais, c'est oui, le focus est sur la course, mais je vois quand même vraiment des beaux pays, puis c'est, je me permets de visiter un peu. Là.
Tant mieux, une pierre deux coups dans le fond. Mm-hmm. Et puis, bon, ça, Paris s'en vient, tu l'as dit, ton objectif serait dans un monde idéal un top 10. À la suite de Paris, c'est quoi tes autres objectifs ou dans une autre idée, c'est quoi ton plus grand objectif au niveau sportif, ton plus grand rêve?
Hey, je pense que c'est une grosse question parce que tu m'aurais posé la question il y a 6 ans ou 7 ans quand j'ai commencé à faire de la course, je t'aurais dit mon rêve ce serait de faire une équipe nationale un jour. T'sais, maintenant je suis rendu quasiment un membre vétéran des équipes nationales. Puis après ça, tu m'aurais posé la question il y a 3-4 ans, je t'aurais dit je voudrais faire un championnat du monde. Là, j'ai fait une finale avec un top 10, fait que je pense de me présenter aux Olympiques. Après ça va être quoi l'objectif? Ben ça va être de probablement viser mieux, viser plus vite que ce que je vais avoir fait, t'sais, rêver du top 5 puis peut-être du top 3 un jour si toutes les as s'alignent.
Puis à travers tout ça, tu es à l'université, tu es à Laval, puis c'est un peu pour ça qu'on est capable de t'avoir aujourd'hui là, que t'es avec le Rouge et Or. Écoute, t'as connu 5 années avec le Rouge et Or, là, quand même folle avec tous les résultats que t'as eu. Est-ce que t'as un moment ou un souvenir qui te vient en tête que tu dis ça là, c'est le moment qui représente le mieux mes années à Laval?
Oui là, ben tu sais, déjà ça a été 5 années vraiment exceptionnel, ouais. Là, tu sais, dans le sens que ça a été fou. Mais le moment qui me vient en tête quand je me fais poser cette question-là, c'est quand on a gagné le championnat de cross-country sur les plaines en 2021. Tu sais, on était d'un à la maison devant toute une foule qui était immense, là, je me rappelle, on courait sur la boucle de 2 km, c'était un tunnel, là. Il n'y avait pas une place, il n'y avait personne autour de nous. On avait gagné, je pense, par 1 ou 2 points contre Guelph. Moi, j'avais fini 3e, Thomas avait fini 2e. C'était aussi une équipe, tu sais, c'était pas une équipe de jeunes qui venaient d'arriver. Ça faisait quelques années qu'on construisait cette équipe-là. Thomas, il est venu faire sa seule année à l'université. Il avait un peu jonglé avec ses cours. Il avait travaillé fort pour pouvoir avoir son éligibilité. Fait que, tu sais, d'avoir cette équipe-là, de rassembler puis d'être capable de deliver le jour de la compé puis de bien performer, ça, c'était vraiment exceptionnel. Puis c'est vraiment le moment là, que j'ai le plus apprécié de ma carrière.
Je me demandais aussi, est-ce que tu as un rituel d'avant-course ou des superstitions?
Est-ce que j'ai des superstitions? Pas vraiment, là, parce que souvent, la superstition peut devenir quelque chose que quand tu l'as pas, va nuire à ta compétition. Avec, si tu dis, crème, j'ai mes bobettes, porte-chance, merde, j'ai oublié mes bobettes à la maison, tu sais, qu'est-ce que je fais? Fait que j'essaie de rester assez groundé, mais tu sais, mon rituel classique, moi, avant une course, les courses sont souvent le soir, vers 7-8 heures, ça va être de me réveiller, de manger un gruau. Après ça, je fais un petit peu ma journée, un petit jogging, après ça, je me couche, une petite sieste. Puis quand je me réveille de ma sieste, c'est comme si la deuxième journée recommençait, tu sais. Puis là, c'est comme la journée de la course. Je vais prendre souvent un repas plus lourd, là, 7-8 heures, 6-7 heures avant la course, puis après ça, une petite collation 2-3 heures avant. Puis je dirais, ce qui est vraiment le plus rituel ou superstitieux, ça va être d'avoir une source de caféine là, avant ma course, que ce soit un café, une boisson énergisante, des comprimés de caféine en fonction de comment mon estomac feel là, cette journée-là.
Puis sur un autre ordre d'idée, tu sais, t'as probablement plein de gens qui t'ont aidé durant ce parcours-là à Laval. Je pense à une personne en particulier parce qu'elle me vient en tête comme ça, mais Félix-Antoine La pointe, mm-hmm, exact. Qui entraîne, je pense, Philbert Thibouteau, si je me rappelle bien,
ouais,
qui doit être dans ton entourage aussi, là, je suis pas certain à 100%, mais est-ce que lui ou d'autres mondes, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont marqué dans ton parcours ou qui continuent à te marquer aujourd'hui ou qui continuent à travailler avec toi avec ton passage à Laval?
Mm-hmm. Ben, en Félix-Antoine, je pense que c'est de loin un des acteurs les plus clés dans mon développement. Quand j'ai commencé avec le club de développement ici, quand j'étais au Cégep, c'était Sylvain Cloutier qui me coachait. Il m'a coaché pendant à peu près 1 an, puis après ça, j'ai fait la transition avec Félix-Antoine, là, comme 6 mois avant de rentrer à l'université. Puis depuis ce temps-là, donc depuis 2016 ou 17, c'est lui qui me coach, là, puis il me coach encore aujourd'hui. Je pense qu'on a développé une super relation, tu sais, mais il me prescrit des entraînements que j'aurais pu inventer, qu'il fait exactement la même chose. Fait que, tu sais, c'est comme si on est rendu en synergie pour les entraînements. Fait que lui, il y a eu un impact, là, vraiment majeur. Puis après ça, ben, l'autre personne que je peux penser, c'est mon préparateur physique, Charles Castonguay, qui entraîne aussi d'autres athlètes du Rouge et Or, qui a entraîné Alex Harvey, d'autres athlètes d'autres Olympiens en sport d'hiver. Puis que je pense que depuis qu'il a un peu intégré notre préparation, là, dans les alentours de 2019-2020, il a amené un peu une coche de plus. Tu sais, je pense que c'est ce qui nous a permis de passer d'un bon groupe niveau provincial, national, à un groupe qui était capable de se démarquer à l'international aussi.
Tu parlais d'ajouter quelque chose à l'entraînement. Avec l'arrivée du centre de glace, on te voit souvent sur les réseaux sociaux, là, tu t'entraînes beaucoup là. Qu'est-ce que c'est? À la base, c'est pour le patin de vitesse puis pour les sports de glace, mais il y a aussi une piste d'athlétisme sur le côté. Qu'est-ce que ça l'a amené pour l'entraînement hivernal?
Ben, pour vrai, ça l'a amené tout. Là, cette installation-là, ça a complètement changé notre structure, le risque de blessure, la façon de s'entraîner. Puis c'est quand même comique que ça s'appelle le centre de glace, oui, parce qu'il y a beaucoup de glace, autant pour le patin de vitesse, le hockey, mais je suis dans une journée, il y a plus de coureurs que de patineurs qui viennent à cette installation-là.
C'est une salle d'entraînement aussi, je pense, qu'il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent.
Fait que, tu sais, je pense une réussite exceptionnelle de la ville de Québec, parce que d'emblée, c'est pas uniquement une installation monosport, tu sais, il y a plein de sports qui peuvent l'utiliser. Puis nous, ben, ça nous permet de pouvoir s'entraîner l'hiver sur une piste qui est pas une piste de 200 mètres, parce qu'on connaît bien la piste au Peps ici, mais c'est une piste avec des courbes là, extrêmement étroites, puis de courir beaucoup sur une piste cette voie, les risques de blessures sont augmentent vraiment beaucoup. Admettons que tu fais un entraînement avec 10 km d'intensité, ben toujours en train de tourner du même côté, tu taxes tes muscles vraiment pas de façon optimale. Fait que d'avoir une piste d'à peu près 450 mètres d'une surface qui est exceptionnelle, un climat qui est toujours parfait, pour vrai, ça a vraiment changé notre entraînement. Puis moi, je m'amuse à dire que maintenant, la seule chose qui nous différencie entre les meilleurs lieux d'entraînement au monde, c'est les quelques centimètres de neige qu'on a l'hiver. Mais sinon, en termes d'installation, avec le PEPS, les professionnels qu'on a ici, on n'a vraiment rien à envier à personne.
Mm-hmm. Et puis, tu sais, ta carrière universitaire se termine, en fait, vient de se terminer il y a quelques semaines à peine. Tu as connu toute une carrière quand même avec le Rouge et Or. 10 participations au championnat U-Sports, tu as rapporté 11 médailles individuelles. C'est qu'est-ce qui va le plus te manquer de ton parcours avec le Rouge et Or maintenant que c'est terminé?
Ben, je pense que ce qui va plus me manquer, c'est sûr, c'est l'aspect de groupe, l'aspect de gang. Tu sais, d'arriver le matin d'un championnat national ou d'un championnat provincial, puis de rejoindre les 10, 12, 15 autres gars qui sont là comme toi pour aller, tu sais, donner le meilleur d'eux, qui se sont entraînés depuis 3-4 mois, puis tu sais, des années auparavant aussi, puis t'es un peu tout dans le même mindset d'aller là pour te dépasser. Ça va vraiment me manquer, tu sais, d'être un peu tout dans le même bateau vers la performance. C'était exceptionnel, encore plus dans les championnats de cross-country où l'aspect d'équipe devient un peu en avant de l'aspect individuel. Fait que ça va être vraiment quelque chose que je vais m'ennuyer, là, puis que tout athlète qui a passé par le Rouge et Or, je pense, va s'ennuyer aussi.
Est-ce qu'on peut recréer un peu cette ambiance-là en dehors, justement, du parcours universitaire, où c'est plus difficile une fois que t'es sorti de là?
Je pense que c'est plus difficile parce que à partir du moment où t'es hors du parcours universitaire, ben chacun un peu s'enligne vers des compétitions différentes, a un niveau différent de compétition. Certains atteignent des niveaux qui veulent, d'autres sont sur la ligne puis réussiront jamais à y toucher. Fait que c'est, moi, je pense que c'est quelque chose qui est irremplaçable. Là. On essaie d'y toucher le plus possible là, avec des coéquipiers, comme on parlait de Charles tantôt, avec qui je compétitionne à l'international. On fait des voyages ensemble, mais c'est pas non plus 18 gars qui font la même compétition du même club.
Puis qui sont dans le même milieu, là, dans le sens que c'est des étudiants comme toi qui sont dans le même bateau à devoir étudier à des heures pas possibles. Puis au final, vous comprenez à cause de ça aussi. Là.
Vraiment, vraiment. Puis c'est aussi des gars que tu t'entraînes avec, que tu vas te mettre à 100% avec sur la piste. Ouais. C'est aussi des gars que tu vas prendre une bière avec le vendredi soir. Fait que c'est une famille, puis c'est exceptionnel, cette synergie-là, puis les émotions intenses que tu crées pendant ces années-là, c'est magique.
Ouais. Puis, tu sais, tes années d'éligibilité dans le circuit universitaire sont terminées. Tu avais le droit à 5 ans, c'est la fin. Cependant, je pense que tu n'as pas terminé tes études en médecine. Il te reste combien de temps ici à l'Université Laval?
Actuellement, il me reste un an de stage là, à compléter à l'Université Laval avant de terminer mon doctorat en médecine. Fait que ça fait longtemps que j'ai commencé. J'ai un parcours un peu différent et particulier à cause de mon cheminement en sport de haut niveau. Mm-hmm. Mais il me reste un an avant de graduer mon doctorat. Là.
C'était comment de concilier le sport de très haut niveau et les études?
Ça a été un bon défi, là. Ben, d'emblée, quand j'ai commencé au préclinique, j'ai été vraiment chanceux. J'ai pu faire mon préclinique en 4 ans. Fait que ça m'a permis de faire une formation qui normalement se fait en 3 ans, de la faire en 4 ans. Fait que c'était vraiment, là, une super période, je pense, à ce moment-là pour bien progresser. Puis, tu sais, ça a été extrêmement bénéfique parce que je pense que c'est un moment que sans être d'emblée dans les meilleurs au monde, ben chaque année je pouvais continuer à progresser, continuer à être meilleur. Puis quand j'ai commencé à faire mon externat, c'est-à-dire les stages là dans les hôpitaux, ben j'ai pu aussi avoir certains accommodements qui me permettaient de partir en compétition l'été. Fait que je pense que c'est clairement quelque chose qui a fait une différence majeure là dans mon cheminement. C'est sûr que chaque jour, c'était un peu un défi de marier l'entraînement avec la médecine, avec l'école, mais je suis vraiment extrêmement reconnaissant d'avoir pu le faire puis d'avoir eu certains accommodements qui ont vraiment, je pense, changé ma carrière là, en tant qu'athlète.
Pour conclure l'entrevue, j'aimerais que tu nous parles un peu. On te voit beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est pour, tu sais, on en parlait avant d'entrer en onde, malgré tout, t'es un des meilleurs au monde de ton sport, mais t'as pas le même salaire que quelqu'un qui serait égal à toi dans, mettons, au hockey ou des sports comme ça. Qu'est-ce que ça t'amène d'être sur les réseaux sociaux?
Ben, je pense que de faire ça d'emblée, ça vient d'une connexion, puis que j'ai des gens qui travaillent dans le milieu qui m'aident énormément avec ça. Puis ça permet aussi de faire connaître le sport puis de montrer, tu sais, je trouve le côté cool ou le fun de la course à pied. Tu sais, on a souvent associé ça, puis moi-même quand j'étais jeune, la course c'était la punition, le sport plate, le sport des nerds, tu sais.
Ouais, ouais.
Puis là, ben j'essaie de dire à Krim, ben la course c'est hot, tu sais, ouais. Tout le monde peut le faire, c'est super accessible, tout le monde a son pace, puis d'essayer d'amener les gens autant à comprendre le steeple que l'athlétisme. Mais je trouve que moi, une fois que j'ai commencé à toucher à ça, j'ai comme vraiment geek-in dans ce monde-là, puis j'essaie d'un peu faire connaître ça à travers autant les entraînements, le voyagement, puis je trouve que ça mérite d'être parlé puis d'être montré. Là.
Dernière question, qu'est-ce qui t'a amené justement vers la course? J'avais vu que tu faisais du football aussi, du hockey avant. Qu'est-ce qui t'a amené vers la course?
Ben, c'est quasiment plus une question de circonstances, là, dans le sens que quand je suis arrivé au cégep, là, les sports d'équipe, ça devenait plus difficile, moins accessible. Tu sais, j'étais pas de niveau à jouer collégial 3A, collégial 2A. Puis j'avais fait quelques compétitions secondaires, là, d'athlétisme. Puis clairement, j'avais un talent, puis je performais bien. Fait que je me suis dit, quand je suis arrivé au cégep, bon, ben, j'essaye ça, tu sais, let's go. Puis rapidement, je suis comme touché au sport individuel. J'ai dit, OK, là, c'est moi contre moi-même qui essaye de bien performer, puis il n'y a personne d'autre à blâmer que moi. Puis en même temps, j'ai joint un groupe, j'ai joint l'équipe. Tu sais, on parlait de l'esprit de gang. Rapidement, j'ai joint la gang du Rougeard. J'ai dit, OK, ouais, le sport individuel, tu te bats contre toi-même, mais t'as aussi toute cette gang-là qui sont avec toi pour te pousser. Puis j'ai voyé l'entraînement se défoncer. J'étais comme, crime, c'est j'ai pas le choix. Là, let's go, je me lance là-dedans à 100%. Fait que c'est vraiment ce déclic-là qui m'a fait tomber en amour avec la course.
Jean-Simon Desgagné, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. On sait que t'es un homme occupé. ça a été super le fun. Nous, ici, à Continent Sportif, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause publicitaire et musicale pour aller nous donner et vous donner le temps, vous autres aussi, d'aller regarder l'éclipse solaire. Donc, on se revoit au retour de la pause.
Merci beaucoup, les gars.
Merci.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Sinatra, Veranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slacky, Sirtaki, Charles Hives, Sudden Archives, Jerry Allen, Grant Eugène, Cloney Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, un mardi sur deux, 22h à 23h sur Chiz 94.3 FM.
Comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben j'ai une solution pour toi. Écoute le monde de Ricassonneau, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique New Country, rap, reggaeton, EDM Club, sans oublier les découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz. 94.3.
C'est de rendez-vous!
Allô, chérie? Je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie? Je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie? Je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie? Je m'en viens...
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
À l'autre bord, on le donne tout de suite. Les joueurs des Hurricanes n'ont jamais voulu. Anton Belzile est encore au banc des Hurricanes.
Tu es anti-sportif, ça marque.
Comme Pierre-Aude le mentionnait, re-bienvenue sur les ondes de Conditante Sportive à Chiz 94.3. Les gars, super entrevue avec Jean-Simon Desgagnés.
Absolument.
Espoir olympique, on dit espoir, c'est presque assuré là, au moment où on se parle, mais ça va être super intéressant de suivre
toujours,
sa carrière.
Toujours et... du bois, pas de blessure,
ouais,
pas
exact,
de
malchance. On veut pas le jinxer, comme on dit.
Puis pour les auditeurs, auditrices, là, Jean-Simon Desgagnés, là, je vais faire un petit côté pub, je sais pas si on est censé ou pas, mais il est vraiment très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, puis il est le fun à suivre. Alors, si vous voulez justement suivre les prochains développements d'ici Paris, ben, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Ça vaut le détour quand même. Faites du bon contenu.
Ouais, puis comme il mentionnait, c'est oui, un peu un côté autopromotionnel, mais c'est aussi pour montrer le visage, la course à pied,
exactement,
si on veut. Ou, je trouve que c'est un super beau sport. Moi, je travaille sur Chemin Saint-Louis, là, fait que je vois tout le temps des coureurs ou des cyclistes passer, puis je trouve ça super beau de voir les gens sortir dehors. On s'en fout si t'es aux Olympiques ou si tu cours un 7 minutes par kilomètre. Le but, c'est d'être dehors, d'être actif. Donc, j'aimais vraiment son message. C'est ça. Suivez probablement aux Olympiques en 2020, cet été. Donc, c'est tout proche à suivre. En deuxième partie d'émission, on peut commencer tout de suite avec Audrey Leduc, qui est elle aussi un espoir olympique, athlète du Rouge et Or, qui est à un centième de se qualifier pour les Olympiques. Donc, pour avoir le standard. Est-ce que vous pouvez m'en parler, les gars?
Ah oui, moi, oui. Donc, oui, Audrey Leduc, qui passe très près, en fait, de faire le standard. On verra si elle pourra se qualifier ou non pour ces Olympiques-là. Clairement, elle espère pouvoir se rendre à cet emplacement-là. Mais c'est une autre athlète du Rougeard qui réussit encore une fois à faire sa place dans l'athlétisme mondial. Donc, c'est intéressant de voir ça, ce genre de personnes-là, ce genre d'athlètes-là capables de faire ce genre de performances-là, comme Jean-Simon Desgagnés. On verra. Est-ce qu'on aura un ou deux athlètes du Rougeard qui seront aux Olympiques? Ce serait une belle réussite d'en avoir.
Ah, déjà, tu sais, un, c'est super bien, là, c'est exceptionnel. Deux, là, c'est assez marquant.
C'est toute une fierté. Puis moi, je me rappelle l'été dernier, pendant le championnat mondial d'athlétisme, je l'avais suivi vraiment de très près. J'avais regardé pratiquement toutes les épreuves. Puis quand Jean-Simon Desgagnés avait couru sa finale, qui avait terminé 8e, j'étais tellement fier. Puis tu sais, à l'époque, je l'avais encore jamais rencontré. Mais tu sais, de me dire, ça, c'est un petit gars de Québec, c'est un gars qui, ouais, pour le Rouge et Or, qui étudie à la même université que moi. J'avais vraiment un sentiment de fierté. Puis c'est beau à voir. C'est ce qui est beau du sport, quand même.
Ouais, 100%. Et tu sais, ça amène, comme Jean-Simon le disait un peu durant l'émission, c'est il lui essaye de justement rendre la course plus accessible à tout le monde, puis d'avoir des athlètes comme ça qui réussissent à faire de ce genre de réussite-là, autant pour Audrey Leduc que pour Jean-Simon Desgagnés, mais ça peut permettre à des jeunes de pouvoir voir ça, puis de voir à quel point c'est réalisable. Tu sais, c'est des athlètes de chez nous, c'est du monde qui habitent dans notre région, qui sont venus à l'université dans notre région, et leur parcours est pas complètement fou. Là, c'est pas des athlètes qui sont allés aux États-Unis pour essayer de s'entraîner plus fort, c'est des athlètes qui sont restés au Québec, qui ont fait je me rappelle de Jean-Simon Desgagnés dans les compétitions provinciales au Québec, au secondaire, cassait tout ce qu'il pouvait, mais tu sais, ça reste qu'il avait ce même parcours-là de faire son secondaire avec tout le monde, de faire de l'athlétisme, d'avoir du talent dans ce sport-là et de s'entraîner encore là au cégep dans des groupes un peu plus privés, là, en quelque sorte, là, dans des clubs qui sont pas scolaires. Donc, c'est un parcours qui est faisable pour à peu près n'importe qui, d'avoir le talent, la motivation et ce qui va avec, ben ça peut vraiment amener à avoir une carrière professionnelle dans l'athlétisme. Donc, si on pouvait en avoir plus qu'un, ce serait encore plus fou, parce que juste Jean-Simon Desgagnés devrait créer un énorme buzz dans ces Jeux olympiques-là.
Ouais, puis c'est des beaux parcours, là, Jean-Simon, qu'il disait, c'est surtout au cégep, là, qui s'est surtout concentré sur la course.
Ouais.
Audrey Leduc, qui c'était pas dans les plans nécessairement là, de se qualifier avec le standard, a vraiment réduit son temps là, aux 100 mètres de beaucoup. Pensait plus passer, je suis pas un savant de l'athlétisme, là, mais par la porte d'en arrière, si on veut, là, les qualifications, tu sais, dans les derniers sélectionnés. Finalement, il est tout près du standard. Donc, c'est une super belle progression. Ça montre que même si tu te rends pas aux Olympiques, là, les athlètes du Rouge et Or ont vécu des championnats canadiens, des championnats québécois. On a reçu Frédéric aussi à Chiasson la semaine dernière, qui nous parlait de l'esprit.
Il y a deux semaines.
Pâques ne compte pas, OK?
Et voilà.
Non, mais exactement. Qui nous parlait beaucoup de l'esprit d'équipe qui règne au sein d'une équipe. Jean-Simon qui nous parlait des voyages qu'il a fait. Là, ça m'a vraiment marqué. A vu la planète quasiment.
En parlant d'esprit d'équipe, tu sais, moi, j'ai trouvé ça beau que Jean-Simon Desgagnés, son plus beau souvenir de toute sa carrière universitaire, c'est quand il a remporté la bannière par équipe avec le Rouge et Or. Ouais. Alors, tu sais, c'est pas un titre individuel qui l'a plus marqué, mais c'est vraiment le titre par équipe. Puis ça, c'est quoi qui est quand même beau, je trouve, dans le sport, là, de prioriser l'équipe avant l'individu, ouais, même dans un sport comme la course à pied.
Exactement. Sinon, on transfère côté tennis. Des grosses nouvelles qui sont sorties dernièrement concernant le campus de l'Université Laval. On va avoir notre centre dédié au tennis bientôt. Les gars, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu?
Mais voilà, fait que dans le fond, grosse nouvelle qui est sortie très, très récemment, là, la semaine dernière. Alors, un investissement de 40 millions de dollars pour bâtir un nouveau stade de tennis ici à l'Université Laval. Si tout va bien, là, ça devrait être prêt pour 2026. Alors, c'est assez bientôt quand même, là, ça va aller vite.
Oui, exact. Et c'est un bel investissement parce que, comme un peu, je fais le parallèle avec le centre de glace, on verra à quel point il sera utile pour le commun des mortels, mais tu sais, pour rendre un sport accessible, ben, d'avoir des installations comme ça, ça peut être intéressant. Encore à voir qu'est-ce qui sera à l'intérieur de ça. Là, c'est un grand centre, là, c'est quand même une grosse bâtisse qui va être construite. Est-ce qu'on va avoir d'autres salles d'entraînement, je sais pas, une piste ou je sais pas trop, là, je sais pas exactement ce qui sera fait à l'intérieur, mais clairement, il y aura du tennis, il y aura des terrains intérieurs, il y aura des terrains extérieurs.
Aussi, oui.
Et si ça devient accessible au commun des mortels, ben, ça peut être une belle façon de rendre le sport plus populaire parce que tu sais, ça reste qu'à Québec, des terrains de tennis, il y en a quelques-uns, il y en a dans chaque quartier. C'est juste que d'en avoir de bonne qualité, des terrains qui sont, j'allais dire, certifiés universitaires, mais qui sont vraiment dédiés pour des universitaires, ben, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir avoir ce genre de place-là pour jouer. La question, tu sais, la question est logistique, à savoir comment ce sera fait, est-ce qu'on prévoit d'autres choses avec le tennis? Est-ce qu'il
va avoir du pickleball aussi?
OK, ouais, donc
c'est un sport émergent puis ouais, qui vraiment monte en popularité, exact, de façon très très très, ouais, rapide là, un peu partout au Québec, ouais, je crois. Là.
Mais donc c'est de voir comment ça sera fait logistiquement, mais tu sais, c'est un emplacement en plus qui était pas utilisé. Je veux dire, c'est un stationnement qui était surtout utilisé pour le tailgate quand on y pense, ouais, dans le sens que c'est un stationnement qui était quand même loin du campus universitaire. Mm-hmm. Donc et le reste, tu sais, c'est un terrain vague à côté du stade TELUS. Donc c'est juste une belle façon vraiment de donner encore une fois de la visibilité à un sport qui est peut-être un peu moins connu au Québec, qui va permettre peut-être au tennis québécois de se développer. Tu sais, là, je parle à travers mon chapeau, mais des compétitions comme on voyait, je me rappelle pas c'est quoi le nom de...
C'est-tu la Coupe Bell ou...
Il y avait une coupe qui se faisait à Québec, j'ai aucun souvenir de où est-ce que c'était puis c'est quoi le nom de la coupe, mais ce genre de compétition-là, à Granby, il y a un tournoi aussi, je veux dire, c'est le genre de compétitions qui seront peut-être possibles d'accueillir à Québec pour, ouais, encore une fois, faire connaître le sport.
Ça va permettre d'attirer des tournois Challenger, ouais, de l'ATP, de la WTA.
Exact.
Donc, tu sais... C'est ça, ça peut amener du côté professionnel, évidemment, pour les athlètes du Rouge et Or. J'ai vérifié, c'est 8 terrains de tennis à l'extérieur, ouais, 8 à l'intérieur.
Quand même, hein?
Ouais. Ouais. Puis c'est surtout...
infrastructure.
C'est ça, c'est aussi pour les athlètes de haut niveau, mais Victor t'en parlait, tu sais, avec tous les terrains qu'on a, oui, tu sais, il y en a dans les quartiers, mais c'est quand même un sport en demande.
Ouais.
Ça va permettre aux communs des mortels, si on peut les appeler comme ça, d'aller pratiquer, tu sais, il va y avoir tellement de terrains. On a un club de tennis au Rouge-Or, mais je sais pas ils sont combien d'athlètes, mais de là à utiliser les 16 terrains en permanence, ça sera, mm-hmm, pas le cas.
Mm-hmm.
Donc bon, il y a peut-être d'autres clubs aussi qui vont pouvoir, un peu comme le Cégep Sainte-Foy qui utilise les infrastructures du PEPS là, pour ses équipes de hockey et de soccer.
Puis plus c'est accessible, ben les chances sont que plus que ça va devenir populaire,
exact,
puis plus que Québec et le Rouge et Or risquent de devenir bons dans les prochaines années en tennis. Et en parlant du Rouge et Or tennis, ça va très très bien pour l'Université Laval. Alors, il y a deux semaines, là, fin mars, le Rouge et Or ont remporté les deux premiers titres québécois de leur histoire, alors autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, victoire féminine de 5-2 contre McGill et de 4-3 du côté masculin contre les Carabins. Alors, ça va bien en tennis. Et avec des infrastructures comme qu'on va avoir, avec des projets, des investissements de la sorte, ben j'imagine que ça va continuer de bien aller, ouais, pour les prochaines années. Ouais. Là, c'est vraiment... ça l'inaugure bien, disons, là, cette annonce-là.
Ouais. Ben oui, clairement. Et on parlait de Jean-Simon Degagné qui parlait du fait qu'il y a des infrastructures qui sont en place à Québec et qu'on n'est pas loin d'avoir un milieu professionnel à Québec, mais c'est un peu la même chose. T'sais, des athlètes de tennis qui viennent de Québec, il y en a probablement moins pour une... Ben là, encore là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais il y en a peut-être moins aussi à cause qu'il n'y a pas d'infrastructure. Quelqu'un qui joue au tennis, qui veut devenir bon au tennis, ben, peut-être doit se déplacer ailleurs, au Québec ou au Canada pour pouvoir se développer. Mais d'avoir des infrastructures comme ça, ben, peut-être qu'un Félix Auger-Aliassime, au lieu de se développer dans sa région, pourrait se développer à Québec. T'sais, c'est le genre d'athlètes qui sont possibles de développer pour une ville comme Québec avec plus d'infrastructures.
On se donne le moyen de nos ambitions.
Ouais,
là.
Ouais, ouais. Exact. C'est drôle que tu parles de ça. J'écoutais notre cher ami Charles Boisvert, qui a son émission, le Boisvert Radio, les mardis à 21h ici à Chiz. Puis il y avait une entrevue avec Laurent Dubreuil. Puis il a posé la question, c'était qu'est-ce que ça fait pour toi le centre de glace? Puis Laurent Dubreuil lui a carrément dit, je sais pas si je ferai encore du patin sans ça. Parce que lui, il est père de deux jeunes filles, si je me trompe pas. Mais tu sais, il doit partir longtemps de s'éloigner. Puis il en demande beaucoup à sa copine. Donc de pouvoir s'entraîner à Québec, avec des infrastructures dignes, t'sais, mondiales, ben, ça change tout. Donc là, tu amènes quelque chose de similaire au tennis. Ben, ça peut te permettre d'avoir justement des athlètes qui restent dans la région ou des athlètes de Montréal ou d'autres régions du Québec qui s'en viennent ici.
Attirer également des athlètes, là, c'est une très, très belle vitrine.
Oui, vraiment.
Puis ça attire les talents, ça, c'est clair.
Donc ça va être intéressant. On a vu durant l'été, là, c'était durant l'été, je pense, le tournoi de volleyball féminin.
Ouais, exact.
Ouais, durant l'été.
Juste avant le début de la session, donc septembre, je pense, fin août. Ouais, là, exact.
Donc, tu sais, tu as un tournoi de volleyball que tu accueilles 3000 personnes facilement là, dans chacun des matchs. Là, je veux dire, l'organisateur du tournoi dont le nom m'échappe.
Norca, je pense.
Oui, Norca, exact. Norca envoyait des photos justement aux joueurs en disant que chez les gars, ben, il n'y a personne qui allait, là, dans le sens que c'était des salles vides, là, alors qu'à Laval, peu importe qui jouait, même si c'était pas le Canada, je veux dire, la salle était quasiment pleine. Donc, de voir justement que le Québec est intéressé à avoir ce genre de sport-là, ben, ça nous permet de voir que peut-être que des tournois Challenger comme ça pourraient permettre à des fans d'aller voir et de faire salle comble pour ces tournois-là. Je comprends qu'il n'y aura pas 3000 personnes qui vont se déplacer parce qu'il n'y a pas 3000 places, mais les places qui seront disponibles pour ces tournois-là vont peut-être pouvoir être occupées par des gens de Québec ou en tout cas pourront permettre aux gens de Québec de voir des jeunes espoirs avoir du succès à Québec. Donc vraiment, là, comme on le dit, là, c'est qu'il y a du bon et en plus il y a pas, tu t'enlèves rien dans le sens que t'enlèves pas d'infrastructures déjà faites. Je veux dire, c'est un terrain vague, un stationnement que t'enlèves, et dans une ère comme aujourd'hui où est-ce que l'auto est porté pas à disparaître mais à être peut-être moins utilisé, ben c'est peut-être pas un stationnement comme ça qui va faire la différence pour l'université. Donc je trouve que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et ça risque de vraiment rendre ça vraiment le fun pour le tennis québécois.
Dans tous les cas, on va se le dire, de toute façon là, c'est pas des stationnements qui manquent à l'université.
Non, exact,
Laval là, chaque bâtiment est entouré de larges stationnements. Là, fait que même si on en enlève un pour créer un centre de sport, les automobilistes n'ont pas à avoir peur. Soyez rassurés.
Surtout que le stationnement où est-ce qu'il était placé, c'était comme il n'y a pas de pavillon.
C'est vraiment le moins bon stationnement du campus.
T'es loin, là, dans le sens que tu t'arrives là, tu sais, moi, de marcher de chez moi jusqu'à l'université, c'est quasiment plus rapide que si tu stationnes. Tu sais, c'est juste le fait que tu stationnes là, tu t'en vas à l'autre bout du pavillon, à l'autre bout de l'université, c'est vraiment loin. Donc, non, clairement, c'est la meilleure place où est-ce qu'ils pouvaient le faire. Parce que vraiment, l'autre terrain, c'était un terrain vague qui était pas utilisé, qui, au final, c'était les mauvaises herbes qui poussaient là. Je me rappelle de laisser mon vélo là avant l'image où j'ai. Tu sais, c'est des herbes longues qui m'arrivaient jusqu'au genou. Tu sais, je comprends qu'on n'a pas besoin de l'entretenir parce qu'il y a rien qui se fait là, mais tu sais, d'avoir de quoi qui se place là, ben, ça va rendre ça vraiment plus attrayant. Puis encore rendre le campus encore plus beau, puis encore plus le fun à pratiquer, puis à vivre.
Ouais, puis t'en as parlé, Victor, il y a un appétit sportif à Québec, là, les remparts. On le signe, là, c'est une des meilleures foules juniors chaque année.
Et ça, même si.
Ouais,
même...
c'est ça, cette année, ils ont battu un des records, alors que leur équipe a même pas fait, une des deux seules à pas avoir fait les séries de la LHGMQ.
Avec les Foreurs de Val-d'Or, malheureusement, l'équipe chérie.
Mais. Donc, ça, il y a un appétit. On avait déjà des. T'sais, parmi les meilleures infrastructures universitaires au pays, on rajoute ça. Puis juste pour conclure, là, on en a parlé beaucoup, mais c'est dans le fond, c'est à côté du stade TELUS, entre le stade TELUS, le stade intérieur, et l'autoroute, j'allais dire Duplessis, mais c'est pas Duplessis du tout, c'est Robert Bourassa.
Je pense que oui.
Du Vallon, là, qu'on disait avant, mais donc c'est ça, un espace qui était plus ou moins occupé, qui va se transformer en super bon centre de tennis avec du pickleball, t'en parlais, Emery. Mm-hmm. Un sport qui grandit en popularité, un rythme
fou. Là, ah, ouais. Ah, mes parents jouent pickleball, là, sont rendus meilleurs que moi, là, c'est dur. Heureusement, je vais avoir la chance maintenant de me pratiquer ici à l'Université Laval. Et quand... cet été, je vais pouvoir, en tout cas, dans quelques étés, ben, je vais pouvoir arriver puis les battre.
Si on pense sur les anecdotes. Ça,
alors, bonne nouvelle pour le. Mais, oui, t'en as.
Oui, je travaillais au Sport Expert dans la section équipement, mais je m'étais déjà fait dire par quelqu'un, une personne âgée, là, ça vous prend du pickleball parce que ça s'en vient. Puis tout le monde joue à ça. Écoute.
Un visionnaire. Et voilà. Alors, bonne nouvelle pour le tennis, mais messieurs, c'est pas aussi vrai pour le ski. Alors, ski de fond, ski alpin, on a des moins bonnes nouvelles pour le Rouge et Or.
Ouais, ben, en fait, les deux clubs vont fermer en quelque sorte. Vont se retrouver à devenir un peu comme ce qui est fait avec le triathlon présentement à Laval. Donc, c'est malheureux. Heureusement, pour ces sportifs-là puis pour ces athlètes-là, le sport n'est pas complètement mort. Je veux dire, il y aura une façon de le pratiquer encore. Mais oui, c'est dommage. C'est dommage pour ces deux sports-là. C'est pas deux sports, je pense qu'on peut le dire avec certitude, puis même les athlètes le diraient, c'est peut-être pas les deux sports les plus aimés, dans le sens que c'est pas les sports les plus regardés ou les plus utilisés. Je pense qu'en ski de fond et en ski alpin, il y a des façons de s'entraîner ou de compétitionner autres que par l'universitaire, ce qui n'est pas le cas nécessairement avec le volleyball, le basketball, le football ou n'importe quel autre sport.
Ce qui se passe, c'est que les équipes ne seront plus dans le circuit universitaire ou qu'il y aura juste plus de circuit universitaire?
Ça, c'est une bonne question. Là, je pense que les circuits universitaires ferment.
Okay.
Le ski de fond... les deux, je pense qu'il reste une année. Le ski de fond, ça va la saison prochaine est la dernière. Ça, c'est certain. Pour le ski alpin, ça prendrait deux autres équipes qui rejoignent le RSEQ pour continuer à survivre. Donc, le ski alpin est pas, tu sais, le programme est pas encore mort, assurément, mais ça prendrait deux autres équipes. Puis, tu sais, Victor en parlait. Oui, il y a un côté popularité, mais il y a aussi un côté technique où, tu sais, pour aller t'entraîner, c'est loin, les compétitions. Exact. C'est pas toutes les universités qui sont à proximité des infrastructures ou de la nature nécessaire, si on veut. Ouais. Donc, c'est dommage. Heureusement, comme Victor, tu le mentionnais, les athlètes vont pouvoir continuer à faire leur sport. Peut-être pas de la façon, tu sais, avec un circuit optimal comme on avait... côté universitaire, le triathlon a subi le même sort. Là, c'est rendu un club civil alors qu'avant c'était avec l'université, mais ils s'entraînent toujours à l'université avec, je pense, les mêmes entraîneurs et reste le même environnement quand même.
Le club universitaire devient un club civil, là, si je comprends bien.
Le triathlon, c'est quoi? C'est rendu Optimum ou nom?
Que c'est ça. Là, ça devient le triathlon, un club qui est civil, donc qui fait des compétitions au Québec, mais je pense qu'il n'y a plus de compétitions avec les autres universités, si je comprends bien. Mais c'est une bonne colle.
Fait que heureusement pour les athlètes, ils vont pouvoir continuer de pratiquer leur sport dans un circuit qui est compétitif.
Exact.
Mais on sort vraiment de tout ce qui est universitaire. Alors, on sort de la grande famille du Rouge et Or, j'ai l'impression. Ce qui peut être dommage quand même pour les athlètes.
Oui, c'est dommage. Je pense que ça fait mal. Ça va faire mal aux athlètes. C'est un peu un deuil là, de voir ce genre de choses-là. Mais tu sais, ce qu'on doit se rappeler avec Laval, c'est qu'on a la chance d'être représenté dans... je pense, tous les sports qui sont RSEQ, ce qui n'est pas le cas avec toutes les universités. T'sais, tu regardes l'Université de Montréal qui n'est pas représentée en basketball. Tu regardes des universités au foot, il n'y en a pas beaucoup.
Il manque le hockey.
Oui, t'as raison. Le hockey. Donc, c'est pas toutes, mais tu sais, encore là.
Il n'y a pas une université qui a autant de sports qu'ici à Laval.
Et même ce qui est du hockey, je pense que c'est pas l'attrait qui manque. C'est juste, un, il y a les remparts qui sont à côté. Il y a déjà eu du hockey avec le Rouge et Or, je me rappelle bien.
Oui.
Puis il y a déjà des discussions avec Jacques Tanguay pour peut-être avoir une équipe gars-filles. Puis il y a des discussions aussi avec les paliers gouvernementaux respectifs, donc la ville, le provincial, pour justement faire ce genre de d'infrastructure-là. Donc on verra est-ce que ça arrivera un jour. Mais tu sais, je pense, si ma mémoire est bonne, je vois pas beaucoup d'autres sports qui ne sont pas représentés par le Rouge et Or. Donc, mis à part le hockey, comme tu le dis, il y a pas grand-chose qui manque.
Est-ce que vous souhaiteriez voir du hockey ici avec le Rouge et Or?
Je pense que c'est une belle vitrine parce que c'est un calibre qui serait intéressant, je pense, pour les gens d'aller voir. Je pense que ça reste un sport qui est très populaire. Je pense que c'est une bonne façon d'amener du sport féminin aussi à Québec, là, parce que le hockey féminin à Québec, ça traîne un peu de la patte dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, ou en tout cas, il y a pas beaucoup. Je pense pas qu'il y a d'équipes professionnelles, si je me trompe pas. Ce qui n'est pas le cas, mettons, à Montréal ou à Ottawa ou dans une ville comme ça. C'est donc vrai. Peut-être d'amener une équipe universitaire comme ça, ça pourrait permettre à Québec de se mettre un peu sur la carte au niveau du sport féminin au hockey. Et chez les gars, ben, je pense que c'est juste une façon de aussi dire aux gens de Québec que si tu veux jouer au hockey, ben, il y a aussi cette façon-là de le faire en étant au scolaire, en faisant justement du hockey avec ton université. Donc, je pense que c'est une belle façon aussi d'avancer avec ça et de rendre le sport peut-être plus accessible pour les gens de Québec puis les gens qui veulent le faire au niveau universitaire.
Pensez-vous, messieurs, que ça pourrait faire mal à la culture du football ou encore aux autres sports comme le volleyball ou le basketball en termes d'assistance? Parce que là, on aurait encore une nouvelle offre de le hockey qui est très très populaire au Québec et à Québec. On le sait, on l'a dit un peu plus tôt, les remparts qui font des records d'assistance encore, même si on est dans les bas-fonds de la ligue.
Ouais.
Mais en dehors, mettons, ça aurait probablement un impact sur les remparts, je sais pas à quel point, mais à quel point ça pourrait avoir un impact sur les autres sports qui est ici à l'Université Laval?
Moi, je pense pas. C'est vrai que le hockey, c'est super populaire, mais déjà, il n'y aurait pas nécessairement des conflits d'horaire. Bon, peut-être avec les sports qui sont principalement comme le basket et surtout la fin de semaine, les samedis.
Exact.
Mais j'imagine tu pourrais mettre les matchs de hockey le dimanche. Tu sais, un moyen de faire un calendrier qui se pile pas sur les pieds. Puis pour revenir, si je souhaiterais voir du hockey, j'ai rien à rajouter, Victor, sur le hockey féminin, t'as tout dit. Mm-hmm. Hockey masculin, ça pourrait offrir un autre niveau que les remparts. La LHMQ, c'est assez jeune aussi. Là,
c'est vrai, très, très jeune. En bas de 20 ans, quand même. Là.
Exact, c'est ça. Tu peux avoir quoi? 2-3 joueurs de 20 ans maximum dans ton équipe?
3 joueurs, je ne me trompe pas. 3 joueurs.
Alors que côté universitaire, ben, les joueurs sont plus vieux. Donc, ceux qui souhaitent poursuivre après la LHMQ pourraient le faire dans le circuit canadien. Puis au-delà, j'aimerais ça en voir à Québec. J'étais un partisan de hockey. J'en veux le plus possible. Là. Mais au-delà d'en avoir à Québec, j'aimerais ça que le circuit québécois de hockey universitaire grandisse. Parce que là, on a à Trois-Rivières, puis on a McGill, je pense. Mais
c'est vrai que des Montréal, je pense au moins une équipe fille, ce qu'ils ont.
Ouais, féminin, justement, le hockey féminin universitaire est plus en santé que masculin, mais je pense que ça vaudrait la peine d'amener les deux à Québec, autant masculin que féminin.
T'as raison, tu sais, je pense que c'est un peu le même discours qu'on a avec le basket depuis qu'on en a parlé justement avec Luc il y a quelques semaines, mais c'est un peu au-delà du rouge et or. Je pense que c'est aussi important de dire que c'est un sport qui mérite, c'est ça pour tous les sports, mais c'est un sport qui mérite aussi un circuit universitaire et un circuit pas mal plus intéressant. Tu sais, on parle du foot tu parles de la culture de foot, mais la culture du foot, tu sais, elle tient à un fil, qu'on le veuille ou non, le circuit universitaire québécois tient un fil.
Il est précaire, le circuit.
Oui, t'as 5 équipes, t'en as 4 qui font les séries. Du jour au lendemain, t'as McGill McGill et Sherbrooke qui décident de fermer leur programme. Tu te retrouves à 3 équipes, là. Et sans dire que ça va arriver, je veux dire, McGill, c'est pas le programme le plus en santé présentement. On verra, on fait des changements dans les dernières années, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et tu sais, du côté de Sherbrooke, s'il y a rien qui marche ou que tu continues à ne pas faire les séries, à avoir de la misère, dans les prochaines années, ben ça pourrait faire mal au programme, peut-être dire au programme, ben là, on travaille d'arrache-pied pour avoir un programme qui a de l'allure, ben là, on est prêt de faire quelque chose. Donc, tu sais, c'est la même chose au hockey. Si on peut avoir 7-8 équipes, on a assez d'universités pour le faire, là, dans le sens que 8 universités au Québec, là, c'est pas dur de trouver 8 universités qui sont viables financièrement ou qui ont des équipes sportives. Tu penses à l'UQTR, tu penses à Laval, tu penses à Sherbrooke, tu penses à Bishop, tu penses à Montréal, il y en a quelques-unes. Sinon, tu sais, à Chicoutimi, t'en as une, à Rimouski, t'en as une autre. Tu sais, il y a plein d'universités comme ça qui pourraient s'ajouter. Je pense que c'est plus ça, comme tu dis, Charles, c'est vraiment plus ça qui est intéressant. Le fait d'avoir une équipe à Laval, oui, c'est pour être dans une ligue de 3 équipes ou de 4 équipes, ça rendra pas ça beaucoup plus intéressant.
Puis je pense aussi que ça pourrait nous permettre de garder des talents ici au Québec ou en tout cas proche de Québec, parce que j'ai un de mes amis là, qui jouait dans la LHJMQ, pardon, et puis lui me disait l'an prochain, ça va jouer universitaire dans les Maritimes. Mais tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres non plus.
C'est une route de plus en plus populaire d'aller NCAA maintenant, là.
Ouais, mais lui, c'est maritime, mais tu sais.
OK.
Parce que non plus, il n'y a pas beaucoup d'offres, là, à part Trois-Rivières. Il y a peu d'équipes universitaires au Québec, je pense, qui sont attrayantes pour les joueurs, puis surtout après leur passage dans la LHJMQ. Alors, c'est évidemment qu'il y a plus d'équipes, mais je pense que ça pourrait faire en sorte qu'il y a plus de talents qui restent au Québec, puis justement, c'est d'éviter soit d'aller dans les Maritimes, en Ontario, peu importe, ou encore aux États-Unis, ou à la limite à la, en Europe, là, je pense que ça garderait plus de talent ici,
tout
simplement.
Exact. On regarde juste, par exemple, le site de la RSEQ, quand tu rentres dessus, que tu vas sur hockey, que tu cliques sur calendrier résultats, ça t'amène sur le site du OUA, donc le site ontarien. Mm-hmm. C'est juste dommage de voir que tu y a pas, dans le sport national, dans le sport le plus suivi au Québec, ben, t'as même pas de ligue. Je veux dire, t'as même pas de ligue à toi. Je regarde ça dans, juste par exemple, dans la conférence en Ontario, là, tu t'as une, t'as deux conférences, là, donc 19 équipes au total. Là-dedans, t'as trois équipes québécoises. Et ces trois équipes québécoises-là, donc tu sais, t'as 16 équipes ontariennes par rapport à trois équipes québécoises. Je veux dire, on n'est pas si loin que ça par rapport à l'Ontario. Là, je vois pas pourquoi. On serait pas capable d'avoir une proportion beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable, je dirais. Et tu regardes ça. Juste, par exemple, l'année passée, McGill termine premier de la Ligue en Ontario. L'UQTR termine deuxième. Et Concordia termine cinquième dans l'Est, ce qui leur donne à peu près une cinquième ou une sixième place, septième place au total. Tu sais, les trois équipes québécoises ont du succès en plus en Ontario. Mm-hmm. Donc, tu sais, ces trois équipes-là qui sont viables, qui seraient prêtes à revenir au Québec. Donc, de peut-être acheter 2, 3, 4 autres équipes, peut-être, là, ça pourrait être intéressant, puis donner une ligue qui a de l'allure. Et, tu sais, tu parlais du marché, est-ce qu'il va y avoir moins de monde au basket, moins de monde au volley? Mm-hmm. Peut-être, mais en même temps, c'est pas des gros marchés. Je veux dire, le volley, il t'accueille 2 000-3 000 personnes par match, même affaire au basket. Je pense que c'était pas la même clientèle, tu sais, de raccueillir 3 000 personnes par match pour le hockey. Je pense que ça se ferait sans nécessairement heurter le basket ou les autres sports. Là. Il y a juste le foot, en fait, là, qui accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, puis qui peut justement gruger un peu, puis manger un peu dans l'assiette des autres.
C'est vrai.
Wow, on a des super belles infrastructures ici à Québec, mais les gens qui vont voir du volley, c'est beaucoup des partisans de volley, c'est des amateurs de volley. Ceux pour le basket, même chose, amateurs. Fait que, comme tu dis, Victor, je pense qu'il y a moyen de séparer ça également sans piger dans l'assiette de l'autre. Ouais. Sur ce, on va faire une toute petite pause, puis au retour, Victor, tu vas nous parler de football pour mettre la table pour l'année prochaine.